Parole de paix sur RCN.
Dans un contexte mondial de guerres multiples et de crises climatiques majeures, et alors que nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle et de violence, Parole de paix vous propose un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion par des militants associatifs sur Nancy. Aujourd'hui, autour des micros de Parole de paix, nous avons Marie-Jo de Amnesty International.
Oui, bonjour.
Nous avons également Alain de l'association France-Palestine Solidarité, AFPS.
Voilà, bonjour.
Et Catherine de la Ligue des droits de l'homme de Nancy.
Bonjour à tous.
Et moi-même, Stéphane, du mouvement de l'objection de conscience. Dans cette émission, nous allons faire un dossier sur le drame de Gaza, encore, sur les morts, les dizaines de milliers de morts, et sur la, alors qu'on a pu penser à un répit ou un début de bonne voie, non, l'armée israélienne a repris les combats, il n'y a plus de cessez-le-feu actuellement, et la situation est très préoccupante. Ça sera l'objet de notre dossier du jour. Ouais. Mais sinon, comme d'habitude, on commence par des brèves, quelques brèves, on en a 4 ou 5, et on va commencer par ce qui se passe par les sociétés, soit économiques ou soit de leur violence, et qui cherchent à bâillonner tout débat, toute opposition, et notamment sur les questions écologiques. Marie-Jo, avec Amnesty, vous nous parlez d'un procédé de bâillon qui est utilisé maintenant en mettant des énormes procès aux opposants. Et tu nous parles de ce qui se passe aux États-Unis avec Greenpeace, c'est ça ?
Tout à fait. Mais au préalable, je voulais parler du fait que lorsque nous avons fait à Amnesty Nancy, nous avons fait signer des pétitions pour soutenir la lutte d'un peuple autochtone en Colombie-Britannique, au Canada, qui se sont opposés au passage d'un pipeline, d'un oléoduc, qui traversait leurs terres. Alors leurs droits sont bafoués puisqu'ils ne voulaient pas et qu'on a quand même fait le... Et donc ils se sont opposés, ils ont été emprisonnés. Donc ça c'était le premier. Mais là je viens de lire que le 20 mars, le Greenpeace a été condamné à payer 665, alors le 65, on voit des chiffres un peu différents, mais 665 millions de dollars.
Millions de dollars.
Millions de dollars.
Non mais.
Greenpeace.
Non mais.
Alors, il faut voir après les raisons pour lesquelles. Hein. Ceci pour s'être opposé au passage aussi d'un oléoduc, celui-ci de 1875 kilomètres, qui traverse le Dakota et l'Illinois. Et donc, cette opposition leur a valu de la part d'un tribunal du Dakota. Donc, alors, 50 millions au titre de la diffamation, 50 millions pour atteinte à la réputation de l'entreprise et 80 millions pour avoir fait obstacle à des potentielles levées de fonds auprès d'investisseurs. Donc, les raisons qui risquent de bâillonner très sérieusement Greenpeace, sont vraiment... alors ceci, pour s'opposer à l'oléoduc de l'entreprise, alors qu'il s'appelle Transfert Énergie. Et pour terminer, je citerai un mot de notre secrétaire général, Agnès Calamard. Ce jugement accablant crée une série de précédents très judiciables au droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique et met en péril même l'avenir de Greenpeace. Il a de graves conséquences pour les peuples autochtones ainsi que pour les défenseurs de l'environnement et les militantes pour le climat qui œuvrent sans relâche à protéger les droits humains. Il ne fait aucun doute qu'il aura un effet paralysant pour ceux qui font campagne pour dénoncer les actes répréhensibles imputables à des puissantes entreprises aux États-Unis et dans le monde entier. Je m'arrête parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Oui, c'est vrai que c'est effrayant, de plus en plus, le monde est de plus en plus effrayant, le capitalisme est de plus en plus violent et ne permet aucun débat, de muselle de plus en plus toute discussion, surtout vis-à-vis de militants, alors soit pour la paix, soit pour l'environnement, soit pour... Et c'est vrai que c'est inquiétant, aux États-Unis c'est à une grandeur inimaginable, mais en France aussi, on a aussi ça en France, quand on voit les militants pour la paix en Palestine, les difficultés en France même, déjà pour faire des manifestations, ça a été très difficile, et il y a
des associations interdites, hein.
Des dissolutions. En France, en France, on dissout les associations dès qu'elles posent un problème, et nous continuerons à le dire tant que nous le pourrons sur les ondes de RZN.
Tu as raison d'en parler parce que nos auditeurs doivent bien se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent en ce moment. On est dans un basculement de l'ordre mondial là, où c'est plus le capitalisme qui s'appuyait sur une forme de libéralisme et sur la démocratie, on pourrait discuter du terme, mais là c'est la sauvagerie totale quoi.
On fait des procès avec des amendes pour tuer toute discussion. La discussion n'est plus possible, le débat n'est plus possible, donc on se dirige vers un manque de démocratie.
Mais on va pas se laisser faire.
Et Catherine d'ailleurs va nous parler cette question-là aussi sur le nucléaire français qui existe depuis les années 60. 60. Et nous en Lorraine avec Cigéo, avec Bure qui n'est pas loin, qui est à 80 km de Nancy où ils veulent enfouir des déchets nucléaires du monde entier. Donc amis nancéens, retenez votre respiration pendant plusieurs millions d'années après. Mais il y a des gens qui se battent à Bure. La Bure, je crois, c'est entre la Meuse et
la Haute-Marne.
Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi?
Là, c'est un peu dans le même ordre d'idées. Je ne sais pas si vous aviez suivi le procès des malfaiteurs de Bure. Donc, c'était les organisateurs de manifestations qui ont été finalement interdits. Donc, ils avaient été jugés en appel.
Ils avaient déjà été cherchés chez eux à 6 heures du matin, les avocats muselés.
Fouilles chez un avocat. Donc, ils ont décidé de se pourvoir en cassation, en axant le procès en cassation sur, justement, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Parce qu'ils se sont exprimés contre le projet Cigéo.
Voilà, donc Cigéo, c'est l'entreprise. C'est pas avant, c'était Areva et Areva, c'est le fournisseur de déchets nucléaires et voilà.
Cigéo, ça doit être celui qui gère l'enfouissement
à Bure.
Et donc le 24 avril à Nancy aura lieu au tribunal, donc place Carrière.
24 avril, c'est ça.
24 avril à 9h, le procès en cassation de ces malfaiteurs. Il faut savoir quand même qu'en appel, les peines avaient été réduites à peau de chagrin, quoi.
Et puis je crois qu'il ne reste plus que trois.
Vont en cassation, je crois.
Parce que plusieurs avaient été relaxés, finalement, au bout des procès.
Oui, mais ceux-là aussi, je crois qu'ils n'avaient qu'une petite peine avec sursis. Mais ils veulent continuer pour défendre la liberté d'expression.
Donc il faut aller les rejoindre.
Oui, donc il y aura...
Jeudi 24 avril, à 9h du matin.
Le jugement, mais...
Et c'est où
au tribunal de grande instance, je crois qu'il s'appelle Place Carrière.
Place Carrière, non, tribunal,
oui. Oui, voilà. Et il y aura de l'animation toute la journée, et vraisemblablement une table ronde avec des avocats le soir, animée par la LDH, sur la liberté d'expression. Mais ça, on vous redonnera des précisions dès qu'on aura le lieu. Exactement.
C'est important si vous voulez que le débat puisse vivre, si vous voulez ne pas accepter les procès et que les militants pacifiques écologiques soient toujours tourmentés. Et surtout qu'on voit, tu disais tout à l'heure, Alain, c'est aussi avec en face, les violents ont aussi beaucoup de mensonges à la bouche, les mots, plein de mots ont perdu de leur sens.
Complètement.
Et c'est vrai que l'idée, c'est de chambouler dans les esprits de tout le monde et qu'on s'y retrouve plus trop. Il faut s'arrêter 5 minutes, réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour nos enfants, pour nous, pour nos enfants, pour notre planète.
Alors, Vas-y, une autre petite brève que je peux rajouter, c'est qu'il y a à peu près la même chose avec un comité qui s'appelle Vigilance face aux usages publics de l'histoire, qui a été créé en 2005 par des historiens réputés et qui sont poursuivis pour diffamation aussi, je crois, parce qu'ils ont remis les pendules à l'heure concernant les propos de Zemmour. À propos de, des juifs, que la France aurait sauvé les juifs français.
Pétain aurait sauvé
Et aurait simplement livré les juifs. Là aussi, les historiens ont rétabli la vérité, se sont exprimés.
Et on leur fait un procès.
Et on leur fait un procès.
Mais tout est cul par...
Est-ce qu'on va faire un procès à Bardella qui se rend en Israël?
Bah non, tout est cul par cul.
Qui est l'héritier de l'extrême droite et les fascistes qui ont emmené les juifs à la Shoah? Non.
C'est incroyable.
C'est incroyable.
Tout est cul par-dessus tête. Les antisémites sont des sont des défenseurs des juifs. On est vraiment tout est à l'envers, tout est en chamboulé. La guerre c'est la paix. Oui, c'est Orwell, ça.
Alors sinon, si je reviens un peu sur Bure, il y a une enquête publique qui se termine le 31 mars. À qui on demande aux gens de se prononcer et de donner leur avis. Alors, il faut savoir qu'elle a été mise en ligne il y a peu de temps, que le dossier fait 12 000 pages. Donc, c'est volontaire. Personne n'ait le temps de le lire. Donc, on souhaite et puis, que finalement, les gens se prononcent quand même. Donc, il y a un site pour aller se prononcer et pour dire que c'est une aberration. Au moins pour dire 12 000 pages, laissez-nous du temps pour les lire, parce qu'on ne peut pas répondre honnêtement à une enquête publique. Donc, c'est tout ce qui concerne les travaux qui tournent autour de la voie ferrée qui doit être réhabilitée pour atteindre le stand. Et donc, dans un premier temps, ils vont transformer la région en un gruyère en faisant 600 forages. Plus la réhabilitation, plus ils exproprient, enfin voilà. Et donc, 12 000 pages à lire dans un délai extrêmement court. Donc, si ça vous intéresse, je peux donner...
Vas-y,
donc, c'est des sur faut s'inscrire... on peut voter sur registre-numérique.fr/DR0, donc DR en minuscule, -CIGEO. Voilà, donc on sait bien que les enquêtes publiques, ça ne sert pas à grand-chose, mais il faut quand même montrer qu'on nous prend pour des idiots, en nous demandant de lire en quelques semaines, un dossier de 12 000 pages.
Et si des auditrices ou auditeurs sont intéressés par les questions de Bure, les questions antinucléaires, il y a un très bon site qui s'appelle Bure. On met trois fois de burburbur.info et on a l'information des luttes à Bure, des invitations à des conférences, à des débats et ou aussi de des ressources. Donc c'est il faut s'informer, auditeurs, auditrices, continuez à vous tenir informés parce que il ne faut pas croire tout ce qu'on nous raconte.
Et ne comptez pas sur les grands médias pour le faire.
Voilà.
Et je pense que pour la journée du 24 avril, dès que le programme sera vraiment bouclé des animations de la journée, il sera sur Bure.
Et je pense qu'on fera, on va essayer de faire une émission avec ces militants-là avant le 24 avril. Moi j'avais une brève. C'est une lettre ouverte qui a été envoyée. C'est sur le site. J'ai trouvé ça sur le site de ICAN France. ICAN, c'est ICAN France. C'est une association internationale pour le désarmement nucléaire qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2017. Et il y a une branche en française qui s'appelle ICAN France. ICAN, c'est I. Hein. ICANFrance.org. ICANFrance.org. Et la lettre ouverte s'appelle Non à la casse sociale au profit de l'économie de guerre. On n'en a pas parlé. C'est passé un peu comme une lettre à la poste, mais nous avons notre cher président Macron qui a dit, il va falloir qu'on fasse des efforts sur l'armement. Et le premier ministre, on touchera pas aux impôts, notamment des plus riches. On touchera pas on va faire ça, crème, facile. Il faut qu'on trouve en France 100 milliards d'euros. Donc, cette lettre dit ça va être la casse de encore plus lourde des hôpitaux, de l'école, des universités, tout ce qui est les services publics va continuer à être cassé. Vous en faites pas, c'est un des objectifs principaux derrière la peur, derrière
parce que derrière tout ça c'est est-ce que c'est la seule solution?
Et ben,
face au danger qui supposait de la Russie. Alors, est-ce que c'est la seule solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Ça mériterait aussi qu'on ait d'autres sons de cloche.
Et ben, cette tribune propose justement de ne pas se laisser manipuler par la peur et de ne pas la laisser emporter et s'arrêter, réfléchir, mettre de la discussion, par exemple, au Parlement. Le Parlement n'a pas été consulté. C'est le président seul qui fait beaucoup de choses et beaucoup de dégâts d'ailleurs seul, mais jamais du temps pour réfléchir ce qu'on veut faire avant et de regarder ensemble quels sont les besoins ou quels sont quel est l'état du danger. Moi je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de danger, même si je suis au MOC, mais c'est vrai que moi j'avais entendu au Parlement européen un député belge, je crois, qui rappelait au Parlement européen que l'Union européenne actuellement, par exemple, si on nous dit que les méchants, et c'est un méchant Poutine, il n'y a aucun souci là-dessus, mais moi j'étais stupéfait par les chiffres, comme il dit que déjà l'Europe possède 4 fois plus de bateaux de guerre que les Russes, 3 fois plus de blindés que les Russes, 3 fois plus de tanks que les Russes, 3 fois plus de militaires que les Russes. Donc alors, est-ce qu'il faut qu'on soit 30 ou 40 ou 50 fois plus que les Russes, ou est-ce qu'il s'agit d'abord de continuer à une course aux armements dont on ne sait pas ce qu'elle va donner? Effectivement, plus il y a d'armes, plus on a des chances d'avoir une guerre. Mais alors, moi je suis pacifiste, mais je suis ouvert à tout, et je pense que les questions de défense sont des questions aussi sérieuses. Mais il faut faire attention aussi de ne pas faire totalement manipuler. Et cette lettre ouverte qui est signée par une cinquantaine de personnes, je crois, et d'organisations comme le Mouvement de la Paix, oui, il y a le MAN, il y a plein d'associations qui sont dans des syndicats, il y a le DALD, droit au logement, parce que là aussi, en tout cas, à savoir que c'est pour ça qu'il faut réfléchir. S'il casse dans toutes les questions sociales, ça veut dire que la pauvreté va encore augmenter en France. Ça veut dire que des gens seront encore en train de mourir dans nos rues. Ça veut dire aussi que les logements seront toujours le plus délabrés. Et donc c'est des choix, et il faut que sans lancer des anathèmes, sans lancer des phrases toutes faites, il faut que peser les choses et pas prendre tout pour argent comptant. Voilà.
Ça serait peut-être intéressant de faire une émission là-dessus.
Ouais, il faudrait trouver des intervenants autres aussi avec nous, tout à fait. Un événement aussi qui a lieu tous les ans sur Nancy, ça s'appelle, c'est un grand événement à la fois culturel et à la fois pour prendre conscience et pour prendre des contacts, c'est le printemps de la Palestine quand même, qui a d'habitude lieu au printemps d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle printemps de la Palestine, je pense.
Mais ça sera toujours le printemps quand même, au mois d'avril.
Oui.
Ils n'ont pas encore réussi à nous raccourcir le printemps.
Donc cette année, Alain, je pense que comme toutes les autres années, il y aura des tables rondes, des expositions, de la nourriture aussi, des buffets, de la musique et également des temps pour la réflexion, des temps pour découvrir le peuple palestinien et venir découvrir la FPS.
Alors, plus nécessaire que jamais, je dirais, le printemps de la Palestine, parce que chaque année, on essaye de montrer ce qu'est la culture du peuple palestinien, à travers ses différents aspects, littérature, musique, gastronomie, danse, etc. Et cette année, on trouve important qu'on puisse montrer justement ce qu'on veut faire taire, ce qu'on veut faire disparaître, qui est cette culture. Voilà, cette culture extraordinaire. Alors, ça sera du 26 avril au 10 mai. Une vingtaine de manifestations pendant ce festival, dont certaines à Toul, certaines dans les Vosges, Gérardmer, Saint-Dié, etc. Et puis Vendeuvre, Tomblaine, Nancy, bien sûr. Et surtout, alors, il y a des temps, je ne veux pas détailler là, mais il y a des temps, il y a une conférence avec Sylvain Sipel, par exemple. On aura... des soirées d'abqué, qui est la danse traditionnelle palestinienne, avec apprentissage du d'abqué. Donc je vous invite à venir danser le d'abqué. Et surtout, alors, je voudrais parler d'un moment qui va être un moment fort, puisque nous savons que l'ambassadrice de Palestine en France sera présente le 26 avril, lors du démarrage du printemps, comme on fait chaque année, ouais, place Maginot, ouais, où on fait la fête avec de la musique, des danses, etc.
Ouais, tous les ans, ça commence place, voilà, Maginot, voilà, ouvert à toutes et à tous, ouais, sur le chemin, voilà, pour avec des petits ateliers, de la musique,
des choses pour les enfants. On peut manger aussi.
Et tu dis que cette année, il y aura une personnalité politique, voilà, palestinienne.
Bah, l'ambassadrice de Palestine en France, qui sera présente à l'inauguration. Donc ce sera un temps fort pour lancer le printemps de la Palestine. Voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, et sinon, on pourra retrouver le programme sur la page Facebook de AFPS Loire Sud, ou...
Oui, alors page Facebook, sur Instagram, et puis il y a un QR code, si vous voyez l'affiche, elle ne va pas tarder à sortir, il y a un QR code en bas de l'affiche qui vous amène vers le programme, quoi, avec les dates, très bien, les jours, les heures, les lieux.
Très bien, et donc on rappelle qu'à Nancy aussi, la FPS régulièrement, et avec tous ses alliés, tous les démocrates et toutes celles et tous ceux qui trouvent insupportable un génocide qui a lieu sous nos yeux en temps réel et filmé, c'est encore plus quelque chose de d'affreux. La FPS alerte ouais, depuis longtemps. Il y a eu les massacres injustifiables et du 7 octobre, d'accord, en 7 octobre 2023, mais depuis c'est l'enfer et c'est
on va en parler après,
ouais, mais... ça sera donc la FPS fait, voilà, régulièrement sur Nancy des manifestations, invite à sortir.
Là on a une manifestation samedi prochain sera donc le 29,
oui, si vous avez le temps,
à 16h. Alors pourquoi à 16h? Parce que c'est une journée chargée, hein. Enfin, c'est un après-midi chargé, parce qu'à 15h, il y a le cercle du silence.
Et encore avant.
Et à 14h, il y a une manifestation pour le droit au logement, organisée par le DAL et d'autres organisations.
Attends, est-ce que je peux les remettre dans l'ordre?
Oui.
Donc, 14h, ça sera place Charles III. 14h, place Charles III, avec l'association qui s'appelle Droit au Logement, qui lutte contre les expulsions, parce que le 1er avril, tous les ans, c'est la fin de la trêve hivernale, et des gens vont être expulsés de leur maison, de leur appartement, de leur logement. Donc, avec le Droit au Logement, 14h, place Charles III.
Ouais.
Et comme tu le disais, à 15h,
place Stanislas.
On change de place.
On change de place, mais on a fait trois places, les amis. À 15h, c'est place Stanislas, mais ça, c'est un rendez-vous régulier de RESF et d'un toit pour les migrants et toutes les associations qui aident les migrants. Donc c'est 15h, place Stanislas, chaque dernier samedi du mois. Donc là, ça sera le samedi 29 à 15h. Et à 16h, on remonte place Maginot.
Place Maginot, mais on va faire les deux autres places aussi, parce que c'est une manifestation, donc on va passer par Charles III,
d'accord,
par la rue Saint-Jean, et on aboutira à la place Stanislas.
Donc si vous avez eu le temps d'entendre cette émission avant le 29 mars, vous avez des choses à faire tout le samedi après-midi.
C'est à l'appel d'une dizaine, enfin une quinzaine d'organisations, hein, la manifestation de samedi, partis, syndicats, etc.
Ouais, très bien. Alors, on va aujourd'hui dans notre émission, on va faire une thématique sur la plus que la guerre, parce que moi j'ai du mal à dire la guerre, parce que pour moi
une guerre c'est entre deux armées,
il y a pas l'armée en face, c'est ça,
il y a des militants d'une organisation
qui sont pas nos amis
militarisés, mais il y a pas d'armée en face, hein, c'est pas une guerre,
hein. et donc on va commencer notre dossier. On va d'abord faire une pause musicale, et puis après on enchaîne sur ce dossier lourd, mais à la fois il faut être informé, faut garder la conscience réveillée, et puis savoir protester quand il faut protester, parce qu'on peut pas passer à côté et n'avoir rien fait, quoi. Sinon
on en parlera, mais parce qu'on est tous concernés, parce que il n'y a pas que là que ça peut arriver. Vu comme, comme tourne le monde aujourd'hui et vu ce que nous promet Trump.
Et donc on écoute HK, la chanson qui s'appelle Je viens de perdre, je perds le titre, mais c'est HK qui a fait.
Il vous appartient de vivre.
Il vous appartient, à partir d'un poème d'un poète palestinien, voilà. Qui quelques jours
il
après.
Il l'a écrit parce qu'il voyait bien que sa vie pouvait être mise en danger. Il a écrit ce poème. Il s'adresse aux gens, à la population du monde entier. Et quelques jours après, bah hélas, il est mort dans un bombardement.
Tout à fait. Donc HK, il vous appartient de vivre.
S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent. Et achetez une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu, à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza.
De cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant, inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre,
il vous appartiendra de vivre,
que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort devienne une histoire,
que ma mort devienne une histoire.
Jusqu'à midi, parole de paix sur RCN.
Alors, Parole de paix, cette semaine, revient sur le drame pour le peuple palestinien qui se fait massacrer. On a eu des petits espoirs de cesser le feu qui étaient annoncés.
On parlait de trêve.
De trêve,
parce qu'on voyait bien que tout était fragile et que la volonté n'était pas qu'on aille vers la paix.
Oui, et puis les dessins sont clairs. Je pense que le gouvernement d'extrême droite israélien ne se cache pas qu'il veut finir les Palestiniens, quoi, jusqu'au dernier. Finir le travail, les jeunes, les vieux, les femmes, tout le monde, les journalistes.
Je vais vous lire un tract qui a été envoyé aux habitants de Gaza par l'armée israélienne qui a jeté des tracts.
Ouais, comme ça se faisait, là, des avions passent et lancent des tracts sur la population.
Voilà. Ah ouais. Je vais vous le lire.
Vas-y.
Ah bah, on peut commencer par ça d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est assez terrifiant. Le tract dit réfléchissez bien. La carte du monde ne changera pas si tous les habitants de Gaza disparaissent. Nous vous lançons un dernier appel. Partez avant la mise en œuvre du plan Trump, car ce plan vous imposera un déplacement forcé, que cela vous plaise ou non. Personne ne compatira et personne ne demandera de vos nouvelles. Vous êtes seul face à votre inévitable destin. Ni les États-Unis, ni l'Europe ne se soucient de Gaza. Même l'Iran ne pourra pas vous défendre. La partie est presque terminée pour vous. Il ne vous reste que très peu de temps. Vous pouvez recevoir une aide pour partir. Quant à nous, nous resterons ici jusqu'au jour du jugement dernier. Voilà, c'est ce qui a été...
Ça glace le sang.
Ah, ça glace le sang. C'est terrifiant. Et ça met en rage quand on entend qu'il y a encore des gens qui peuvent défendre un gouvernement qui s'adresse aux gens, un gouvernement israélien qui s'adresse aux gens de cette façon, quoi. Hein. Enfin voilà, donc effectivement, moi je voulais revenir aujourd'hui sur la reprise des massacres et du génocide à Gaza et en Cisjordanie. Parce que tout à l'heure, on parlait de Gaza, mais... Pendant la trêve à Gaza, les agressions de colons, les interventions de l'armée israélienne n'ont pas cessé. Et aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 personnes qui sont sur les routes en Cisjordanie, puisque l'armée est intervenue dans les camps de réfugiés de Jenin, de Tul Karem et un autre également, et que tout a été détruit. Les maisons, tout a été détruit, c'est-à-dire que ces gens-là sont dehors. Alors on peut penser qu'en Cisjordanie, ils vont trouver des points d'appui pour des gens qui vont les aider. Mais voilà, il y a aussi cette partie-là. Et puisqu'on parle de la Cisjordanie, ben, on a appris hier que un des réalisateurs du film No Other Land, le jeune Hamdan Balal, qui est membre d'un des villages, Ames Aferiata, qui sont des villages de paysans, de bédouins. L'armée est intervenue, les colons sont intervenus violemment dans son village, et lui-même a été tabassé, quand une ambulance a voulu l'emmener, l'armée est arrivée, l'a saisi dans l'ambulance et l'a emmené. Alors il a été libéré depuis, mais c'est pour vous dire que en Cisjordanie, les choses sont pas tout à fait semblables à ce qui se passe à Gaza, parce qu'à Gaza c'est des bombes qui tombent sans arrêt, mais il y a une répression terrible visant à l'épuration ethnique, visant à chasser les Palestiniens, à les faire partir. On sait par exemple que 17 villages bédouins aujourd'hui ont disparu. Les gens sont partis parce que c'était impossible de continuer à vivre. Si vous avez vu le film No Other Land, on voit comment ça se passe, quoi.
Et peut-être rappeler aux auditeurs auditrices que No Other Land, donc c'est un film documentaire fait par un Palestinien. Bah, ce Palestinien-là, Hamdan Balal, et un Israélien.
Oui, dont le prénom est Yulal, mais je me rappelle plus son nom.
Oui. Voilà. Et dire que ce documentaire a été acclamé à l'international, qu'il a il a été récompensé de l'Oscar du meilleur documentaire, ainsi que du prestigieux prix de la Berlinale au Festival international du film de Copenhague et à celui de Vancouver. Donc ça, c'est un prestigieux réalisateur mondialement connu. Il n'empêche
alors
que...
c'est pas un réalisateur au départ. Hein.
Oui,
c'est un jeune qui a voulu témoigner. Et puis un jour, un jeune, on le voit dans le film, un jeune israélien qui se préoccupait de la situation et était solidaire des Palestiniens, est venu le voir dans le village. Et tous les deux, ils ont construit ce reportage, hein, qui est assez remarquable parce qu'il est construit, il est fait avec... avec
des téléphones.
Des téléphones, hein. Oui. On voit dans le film d'ailleurs, quand il court, il ne coupe pas son téléphone. On voit quand il court pour fuir les soldats ou pour fuir les colons.
Est-ce qu'on a des nouvelles de l'Israélien ? Mis à part que son retour après la remise des prix
a été
terrible, difficile, mais maintenant...
En Israël, on n'a pas de nouvelles particulières, mais c'est un petit peu compliqué de s'attaquer à lui. Mais on n'a pas de nouvelles particulières. Hein. C'est voilà. Bon, quand il y a une voix qui montre la réalité du génocide, faut la faire taire, quoi. C'est terrible, c'est terrible.
Oui, et les deux ont déclaré qu'ils étaient quotidiennement attaqués. Et donc il faut redire que la colonisation de la Cisjordanie par Israël est une violation manifeste du droit international et systématique. Systématiquement condamné par l'ONU, et donc c'est inacceptable que des voix de la justice internationale, qu'elles soient politiques, journalistiques ou artistiques, soient réprimées.
Oui, totalement. Totalement. Mais bon, quand on voit par exemple que c'est je ne sais plus le chiffre, mais combien, parce que c'est un chiffre terrible, de journalistes tués
207,
à Gaza. 207.
207
journalistes d'origine palestinienne.
Hein, ont été tués, une grosse partie ciblée.
Donc deux depuis la reprise des bombardements, trois depuis la reprise des bombardements à Gaza. Là. Ciblés. Hein, certains ont pu mourir dans des bombardements, mais d'autres ont été délibérément tirés par des snipers. Et là, on en est... donc cette trêve que visiblement Israël... Les propos dans le tract que je vous ai lu montrent qu'Israël ne veut pas de la paix. Mmh. Et Israël ne veut pas d'un pays, ne veut pas que les Palestiniens aient un pays demain. C'est pas d'aujourd'hui, parce que bien sûr, il s'est passé quelque chose de terrible le 7 octobre. Mais ça fait plus de 75 ans que ça dure pour les Palestiniens. Et ça a commencé même avant la création d'Israël. Quand le colonialisme britannique avait la main mise sur la Palestine après le découpage de l'Empire, l'ancien Empire ottoman.
C'est-à-dire que ça appartenait c'était un peu la Turquie actuelle qui avait un grand empire qui a été démantelé à la fin de la guerre de 14.
À la fin de la guerre de 14-18,
en 1918, l'Angleterre, la Grande-Bretagne devait gérer cette région du monde qui se trouve juste au-dessus de l'Égypte pour montrer, pour qu'on se situe un peu. Et donc, dans cette région du monde, des gens vivaient ensemble très bien. Moi, j'ai vu récemment.
Il y avait déjà un État palestinien.
Et il y avait des gens. On voit plein de photos où les gens ont l'air de vivre paisiblement.
Alors, il y avait sur place 8% de juifs qui vivaient très bien avec les Palestiniens. À partir des années 30 et à partir du moment où le congrès des sionistes rassemblés décide qu'il faut, il faut un pays pour les juifs, à partir de ce moment-là, la Grande-Bretagne va commencer à implanter des familles juives en Palestine. Bon, on peut se dire, après tout, pourquoi pas, hein, et si tout le monde vit en bonne entente. Mais à partir de ce moment-là, avec l'aide de l'armée britannique, des milices juives commencent à s'attaquer aux villages palestiniens pour les faire dégager. Il y a un film célèbre, Tantoura, que je vous invite à regarder, c'est une horreur. Hein, parce qu'on interroge... Tantoura. T-E-N-T-U-R-A-H. Je crois qu'il y a un H. C'est le nom d'un village... où vivent aujourd'hui des juifs, et le réalisateur interroge ces juifs qui ont connu la création, qui ont connu la Nakba, qui ont connu la création d'Israël, et ça glace le sang, parce que un dit on n'en a pas tué assez, par exemple. Hein. Bon, voilà. Donc ça vous montre que depuis le début, faut arrêter avec ces histoires-là, depuis le début, jamais Israël n'a souhaité qu'un État palestinien soit mis en place. Et a toujours essayé de récupérer la terre. Hein. C'est le principe de la colonisation. Hein. C'est prendre la terre. Hein, pour voilà. Donc on est là, hélas, donc les bombardements ont repris. On en est à près de 1000 morts depuis le 18 mars où les bombardements ont repris.
Depuis le 18 mars, parce que voilà. Je crois qu'on chiffre actuellement à plus de 50 000 officiellement.
Oui, alors 50 000, on se plaint que ce sont les chiffres du Hamas. Mais il faut savoir que les chiffres du Hamas sont extrêmement restrictifs. Pourquoi ? Parce que ne sont comptabilisés que les gens qui sont amenés dans les morgues ou dans les hôpitaux, et qui meurent dans les hôpitaux, ne sont pas comptabilisés les gens qui sont morts. Et donc le Lancet, qui est une publication scientifique britannique, je crois, le Lancet dit c'est sans doute plus de 100 000 aujourd'hui. À partir d'études, y compris d'études de militaires, qui expliquent comment... par exemple, aujourd'hui, vous avez... Ce qui tombe sur Gaza depuis la reprise, là, des bombardements, c'est des bombes de 100 kilos fournies par les États-Unis. Des bombes de 100 kilos qui sont en mesure de raser un quartier entier. Pas seulement un bâtiment, hein, un quartier entier. Donc le ciblage des dirigeants du Hamas, on s'apprêterait à rire si c'était pas aussi dramatique. Là, c'est l'anéantissement d'un peuple qui est recherché. Voilà.
Est-ce que je peux rajouter pour les auditeurs auditrices que on avait fait une précédente émission sur la Palestine au mois de janvier et dans laquelle on parlait effectivement de génocide, on parlait également de d'écocide parce que il y a des tonnes et tonnes de gravats dans combien d'années on va pouvoir replanter
les bombes au phosphore blanc. Les bombes au phosphore blanc, on peut plus cultiver, hein,
c'est plus d'école pour les enfants, donc ça s'appelle un scolacide ou je sais plus. Comment parce que il y a un certain nombre de chercheurs qui nous montrent que c'est inimaginable les dégâts, et il faut arrêter ça et ça va pas être facile, ça va pas être facile aussi de reconstruire.
Mais Trump va en faire une rivière.
Ouais, non, sûrement pas. Sûrement pas.
Mais oui, mais vous avez vu dans le tract que je vous ai lu, c'est-à-dire que ils veulent récupérer la terre, ils veulent que les Palestiniens dégagent. Il n'y a pas de solution qui est recherchée. Les pays arabes se sont réunis. On peut penser ce qu'on veut des propositions qu'ils ont faites, mais au moins ils ont fait des propositions qui permettent aux Palestiniens de rester en place. Ils n'en veulent pas. Aucune solution, à leurs yeux, n'est acceptable. Et on voit bien qu'en Cisjordanie, la colonisation a petit à petit rogné la terre, rogné le pays. Et aujourd'hui, ils essayent de chasser, de repousser et de chasser les Palestiniens vers l'extérieur. Quoi.
Parce que le gouvernement de Tel Aviv, le gouvernement israélien, soutient, aide, arme les colons à des programmes pour que des gens s'installent dans ce qui reste de territoire palestinien, avec la complicité aussi de banques et autres choses pour lesquelles on va manifester. C'était en janvier aussi.
Devant la BNP.
Ouais, devant la BNP.
Entre autres, hein, parce que les autres banques françaises sont pas beaucoup plus propres point de vue. Hein.
Donc, même si celle-là est la pire, mais oui.
Ouais, voilà. Oui, tu as raison de souligner ça. Aujourd'hui, une famille juive qui veut n'importe quel endroit du monde, qui veut s'installer en Israël, a des facilités a des facilités extraordinaires dans les colonies, je veux dire. Qui veut se loger dans les colonies. Aujourd'hui, c'est Israël essaie de faire en sorte
d'inviter les gens
et de peupler les colonies. Alors c'est un truc terrible, parce que vous voyez un jour les paysans d'un village en Palestine voient un jour une sorte de cabane de chantier qui s'installe. C'est un avant-poste. de colons. Et il y en a deux, trois qui se mettent en place. Et puis derrière, on met les gens devant le fait accompli et on construit.
Et on expulse et on rase.
Voilà, oui, après, et des villes entières, on prend la terre, on coupe l'eau aux paysans, on coupe l'eau aux villageois. C'est une opération d'épuration ethnique, il n'y a pas d'autre mot.
Sous nos yeux.
Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe ne bouge pas, la France ne bouge pas. Alors la France a voté une résolution de l'ONU avec 124 pays demandant l'arrêt, entre autres l'arrêt de la colonisation.
Et la rétrocession des dernières colonies faites. C'est bizarre qu'ils aient voté ça et qu'en même temps on fait le contraire.
Ils jouent toujours le double jeu. Hein.
Bah oui, ça mange pas de pain. Hein. On est pour la paix et on fait rien. On fait rien, mais c'est même pire que ça parce que là, ça devient un peu plus difficile de donner des signes, de soutien direct à Israël. Mais pendant longtemps, quand même. Faut savoir que Netanyahou, par exemple, qui a été condamné par la Cour pénale internationale. Et qui ne peut plus sortir de son pays, tout du moins il ne peut plus aller dans tous les pays qui ont signé le traité de Rome. De Rome.
Parce que ça veut dire que ce traité-là, les pays qui l'ont signé s'engagent à respecter les décisions de la Cour pénale internationale. Sauf
notre président, parce que Netanyahou, pour aller aux États-Unis serrer la main de son copain Trump, il est passé par l'espace aérien français. Normalement, il ne pouvait pas le faire.
La
France respectait, voilà.
Mais même, ils vont plus loin, parce que Macron a dit lui-même que
s'il venait,
il l'accepterait.
Oui, voilà.
C'est grave.
D'après les conventions internationales, si Macron fait ça, la France sera inculpée de complicité de génocide.
Voilà.
Waouh.
Eh oui.
Eh oui. Ça, fort heureusement. Certains disent le droit international a failli, il n'empêche pas les massacres des peuples, etc. Oui, sans doute. Parce que il faut sans doute revoir le fonctionnement de l'ONU, par exemple. C'est pas possible que les grandes puissances mondiales puissent mettre un droit de veto. Bon, là, il y a 124 pays qui tout de même ont voté à l'Assemblée générale. Et si on ne s'appuie pas là-dessus sur le droit international, c'est la jungle.
On n'est que sur la loi du plus fort, effectivement. On se massacre et il n'y a plus de règles.
Voilà. Et alors.
Et ça veut dire aussi que les plus petits pays, même le nôtre, on devra subir la.
Mais c'est extrêmement grave parce que c'est pas seulement la question. Bon, nous, on défend le peuple palestinien, c'est la raison d'être de notre association. Mais j'attire l'attention, moi, sur le fait que derrière, il y a d'autres enjeux, bien au-delà du peuple palestinien. Parce que regardez comment Trump commence à avoir des visions sur le Groenland, sur le Panama. Parce que comme il veut s'arroger tous les moyens dans le monde, et y compris les terres rares, par exemple, vous avez vu le scandale de la façon dont il traite Zelensky et dont il veut récupérer les terres rares qui sont dans les zones conquises par la Russie. C'est effroyable tout ça. Et demain, donc, ça peut être n'importe quel autre peuple. Donc, il faut aller au bout du respect du droit international. Et si le Hamas doit être condamné pour ce qu'il a fait le 7 octobre, il doit être condamné.
Il faut être clair.
Mais, en tous les cas, ce qui se passe là, ce génocide, cette occupation de la Cisjordanie, tout cela est contraire au droit international et doit cesser, quoi.
Voilà. Ouais, donc il faut que les populations, notamment en France, et d'où notre émission de radio aujourd'hui, il faut pousser, il faut pas juste regarder ce qui nous est dit à la télévision et ce qui est la part de mensonge qui nous est assénée tous les jours. Il faut réagir, il faut venir aux manifestations, il faut signer des pétitions, il faut s'informer déjà, aller sur les différents sites de la LDH, d'Amnesty. Il y a aussi un dossier sur les questions de la Palestine.
Sur Amnesty, qui a quand même documenté le génocide.
Après avoir documenté l'apartheid.
Qui parlait de dire qu'il y avait un véritable apartheid aussi en Israël.
Tu parlais de l'État d'Israël qui incite les Juifs du monde entier à venir, mais j'ai entendu dire qu'un des gros problèmes, c'est la fuite de juifs israéliens qui repartent.
300 000 l'année dernière.
Ouais. Qui repartent.
Ouais. Ouais. Alors, la question démographique est une question très très importante, hein, parce que
dans toutes les colonisations.
Voilà, dans toutes les colonisations, parce que c'est une colonisation de peuplement, puisque on implante des familles israéliennes sur le territoire des Palestiniens, dans l'espoir d'inverser le rapport entre Palestiniens et Israéliens. Si demain, par exemple, il y avait un seul pays. Israël veut faire en sorte que la démographie lui soit favorable. Donc c'est aujourd'hui un véritable enjeu. Et malheureusement pour eux, ça se passe pas tout à fait comme ils le souhaiteraient, puisque justement aujourd'hui il y a 300 000. Alors ce sont pas des gens, pas forcément des Israéliens qui condamnent l'attitude du gouvernement Netanyahou à l'égard de la Palestine. Hein. C'est souvent des familles qui pensent qu'elles sont en insécurité. Et elles ne veulent pas rester parce que le 7 octobre les a traumatisées. Hein, faut être juste en même temps.
Mais c'est vrai que ce qu'on disait dans d'autres émissions, c'est la question en Israël même de l'opposition, des gens qui sont en colère par ce qui se passe, qui se rendent compte que ce que tu disais tout à l'heure, que Benjamin Netanyahou, on n'a rien à faire des otages, on n'a rien à faire de rien. C'est un prétexte qu'il met en avant avec des larmes de crocodile, alors que les Israéliens même disent, voient que c'est un fiasco complet, qu'il a rien fait. Il utilise cet argument, ne fait rien pour la paix ou pour organiser des choses.
Mais il est en même temps, il est dans un gouvernement où il a souhaité diriger avec l'extrême droite. Moi, j'attire l'attention là de nos auditeurs qui nous écoutent. On combat l'extrême droite en France. Tout le monde a peur de l'arrivée de Marine Le Pen, mais c'est l'extrême droite qui est en train de faire cela en Israël et auprès du peuple palestinien. Et il y a une internationale d'extrême droite qui est en train de se former, qui est extrêmement dangereuse. Faut qu'on y soit très attentif. C'est pour ça qu'on ne peut pas transiger là sur la question du génocide et la question de bafouer le droit international comme ça se passe en Palestine aujourd'hui. On peut pas transiger sur ces questions. Il faut que tous les démocrates aujourd'hui se mettent en tête que on peut discuter à partir du 7 octobre, on peut discuter de plein de choses, mais aujourd'hui il y a un enjeu qui est tel que si on laisse faire, demain c'est pas seulement la question palestinienne qui sera posée, mais c'est d'autres endroits dans le monde et peut-être un jour la France.
Et oui. Se méfier des
Poutine manipulations. Poutine a quand même dit la Russie de Brest à Vladivostok. Hein, il l'a
repris. Bah oui.
Donc on est dedans.
Hein. Ouais. Bah, il a repris les mots de De Gaulle, mais De Gaulle ne voulait pas dire ça.
Lui, il l'a
de l'Atlantique à l'Oural, c'était pour qualifier l'Europe, comment elle devait être.
C'est vrai qu'il faut rester, encore une fois, vigilant, bien s'informer, et ne pas se faire avoir par les manipulateurs et ceux qui lancent du rêve, ceux qui font croire qu'ils sont aujourd'hui des gentils, qui ont été, les partis politiques, par exemple, qui ont été construits par des Waffen-SS et par... on sait ce que ça a donné, et des gens se laissent séduire par des sirènes au sens de femme poisson, mais à la fin c'est la sirène et de ta prison. Encore une fois, nous, les différentes associations qui co-animent Parole de Paix, on réfléchit ensemble avec des points de vue différents. Mais c'est vrai que il faut rester révolté par des choses qui sont révoltantes, notamment la liberté tout court et la vie tout court, la vie humaine qui est première. Et c'est pour ça qu'on est de tout cœur avec ces combats-là.
Et il peut pas y avoir deux poids deux mesures. Voilà, le droit international, c'est le droit international. On peut pas dire Poutine est un sinistre personnage il doit être sanctionné sanctionne la Russie et on ne fait pas la même chose avec Israël. Et quand on dit cela, c'est pas parce qu'on est antisémite.
Ouais.
C'est parce que c'est un État qui se comporte comme un État voyou et qui doit être condamné. Ça n'a rien à voir avec la religion.
Ça, c'est une diversion de plus. On fera une émission aussi sur, cette question là, parce que le Parlement, au Parlement français, les gens préparent des horreurs aussi pour limiter notre liberté. Est-ce que on va en terminer là pour aujourd'hui, parce que c'était une émission fort intéressante comme d'habitude. Donc écoutez Paroles de paix sur rcnradio.org. Retrouvez les vidéos sur la chaîne YouTube de RCN. Et puis on se dit au revoir.
Et à bientôt.
Et à bientôt pour un nouveau numéro.
Pour défendre le droit international.
Tout à fait. Et merci à Laura qui a été avec nous aux manettes. À bientôt.